études sur Cantique. Olivier et l'autre Laurent.
Je te connais, oh Jésus. Te connais. Il n'y a rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie.
Bien-aimés en Christ, shalom à vous. Nous sommes ravis de savoir que vous êtes encore branchés sur cette fréquence évangélique. Aujourd'hui, dans cette émission, nous vous ferons découvrir un chant à deux strophes constitué de paroles très simples qui expriment le désir ardent de tout enfant de Dieu. « Je veux, Jésus, te ressembler » est la chanson que nous allons étudier dans l'émission de ce jour. Alors, je vous invite à l'écouter en ce moment précis.
Je veux, Jésus, te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier. Pardonner comme tu l'as fait. Je veux, Jésus, te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier. Pardonner.
Il est vivant, il est vivant.
Il revient, excusez-moi, il revient bientôt nous chercher. Vous le savez très bien, à l'heure de cette émission, nous étudions les paroles du chant que nous écoutons et nous essayons de comprendre ce qui est dit au travers de ces paroles, par la parole de Dieu, par les Saintes Écritures. Et vous le savez aussi, nous sommes toujours avec l'autre Laurent. L'autre Laurent, bonjour.
Bonjour Olivier.
Voilà, on y est pour l'émission de ce jour. Nous allons ensemble étudier la chanson « Je veux Jésus te ressembler ». Mais bien avant cela, on va quand même découvrir les paroles de la chanson, si possible.
Oui, là je lis le seul couplet qu'il a. « Je veux Jésus te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. » Chantons ensemble, alléluia, célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, et revient bientôt nous chercher.
Est-ce qu'on a des informations sur le groupe?
Oui, l'Église, c'est l'Assemblée chrétienne missionnaire de la Réunion, c'est-à-dire de l'île de la Réunion, en abrégé ACMIR. En anglais, CTMI, qui est une organisation chrétienne dont le fondateur, le pasteur Mickey et son épouse Audrey Hardy, ont mis sur pied ce mouvement en 2001, ensemble avec des leaders de différents pays et des amis qui sont unis par le message de la croix et l'œuvre de Dieu dans leur vie. Donc la vision de ce groupe, c'est d'équiper, de renforcer les leaders, les églises en Afrique et au-delà par le message apostolique de la croix. Et pour ce faire, ils organisent des conférences et d'autres événements, diffusent des sermons, des conférences à la télé, à la radio, sur Internet et sur d'autres plateformes médiatiques en Afrique et dans d'autres parties du monde. Pour eux, le message de la croix est ce dont l'église contemporaine a besoin pour grandir et s'équiper pour affronter les temps difficiles qui s'annoncent. Ce message n'est autre qu'une identification avec les souffrances et la mort de Jésus dans notre vie quotidienne. Le Seigneur nous appelle, ont-ils dit, à prendre notre croix, à le suivre, à mettre à mort notre nature charnelle afin qu'il puisse vivre de plus en plus en nous et à travers nous. Donc là, on remarquera plus tard que quand les anciens de ce mouvement ont adopté le message de la croix, ils ont commencé par faire des expériences de différentes sortes, hein, des miracles dans leur ministère, dans leur famille, et ainsi ils ont vu des gens parmi le peuple de Dieu commencer à prospérer, à vivre en paix les uns avec les autres. Donc pour eux, aucun autre message ne peut véritablement unir les chrétiens et les amener à la maturité si ce n'est le message de la croix. Donc cette chanson est le reflet de la conviction que ce groupe a.
Ok, exactement. L'évangile de Christ est prêché, l'évangile de Dieu est prêché. Ouais. Et comme tu l'as dit, le message de la croix est au centre de leur ministère. Donc, on le ressent au travers de cette chanson, « Je veux Jésus te ressembler ». Et ensemble, on va découvrir tout à l'heure avec l'autre Laurent les commentaires qui s'y attachent. Mais avant cela, écoutons encore la chanson « Je veux Jésus de ressembler » avec l'Assemblée chrétienne missionnaire de la Réunion. On va y aller, ça vient tout à l'heure. C'est bon.
Je veux Jésus te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Je veux Jésus te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix. Yeah.
Oui, vous nous suivez dans cette émission. Nous allons dès à présent passer aux commentaires de la première partie de cette chanson. Et je vous donne lecture de cette première partie. « Je veux, Jésus, te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. » L'autre Laurent, je dirais que déjà la première partie annonce un message très 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 fort. Mm-hmm. Un message très fort. Et il nous interpelle, le groupe nous interpelle à ressembler à Jésus. Mm-hmm. Et à lui ressembler. Et également, et il nous cite en quel endroit, bien, dans quel domaine devons-nous le ressembler. D'abord il dit en parole. Mm-hmm. Pourquoi cherche-t-il, demande-t-il ou bien veulent-ils qu'on ressemble Jésus dans ses propos? C'est une question.
D'accord. pardon. Pour répondre à la question, comprenons que le Seigneur a enseigné en disant « De l'abondance du cœur, la bouche parle ». En mm-hmm. d'autres termes, nos propos sont le reflet de nos pensées. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Mm-hmm. Un cœur qui n'a pas été transformé par Christ ne peut véhiculer un message qui guérit les autres.
Ok.
D'accord.
Oui.
Et là, quand l'auteur dit je veux parler comme lui, c'est-à-dire je veux penser comme Jésus. Et c'est-à-dire laisser la pensée de Christ couler au travers de nous et sans arrière-pensée. Et ça, c'est à ce niveau que parfois, en tant que chrétiens, nous errons.
Ouais, ouais.
Surtout
ouais,
quand nous avons ouais. l'occasion ouais. de parler.
Ouais.
Après avoir prié, commencé à prêcher, et quand ça coule de source, tu sais que ce n'est pas toi qui parles. Mais dès l'instant où, d'un seul coup, tu commences par regardant les gens, tu te souviens de tel qui a fait ça, et que là, des allusions commencent par venir, tout ça là, l'esprit ne va plus oindre cette portion-là de ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire, le Saint-Esprit ne va jamais inspirer ce que vous allez dire, qui relève de la chair, de l'ancienne création. Jamais.
Ça, c'est au niveau de la prédication.
Oui, oui.
Au niveau de la
maintenant, prédication. Maintenant, même dans les échanges oui. interpersonnels, oui. Normalement, quand Jésus dit que votre oui soit oui et que votre non soit non, c'est pour dire que, pour lui, quand il dit quelque chose, il ne reviendra pas là-dessus pour dire, ok, toutes mes excuses, hein, j'ai plutôt voulu dire ça. Mais il nous invite à une vie de maturité. Et ce que plusieurs ne semble pas comprendre, c'est que quand nous parlons du salut ou de la nouvelle naissance, c'est le début d'une vie tout à fait nouvelle. Hein? Tout comme la première naissance là, quand un enfant vient au monde, mais ça ce n'est que le début. C'est un enfant, quand l'enfant est dans le sein maternel, oui, le monde sait qu'il est là, mais il n'a pas de certificat de naissance parce qu'il n'est pas né. Il est là, mais il n'est pas né. Vous comprenez? De la même façon, vous pouvez rester dans les quatre murs de l'église, vous êtes là dans l'église, mais vous n'êtes pas encore né selon l'esprit. Tu vois un peu? Quand la mère veut prendre, un moyen de déplacement, une femme enceinte, ben on va pas la taxer pour deux personnes, c'est une personne qui s'assoit. Quand bien même on sait que en elle, il y a une vie qui se développe. Donc, c'est à partir de l'instant où l'enfant vient au monde, qu'on le compte parmi ceux qui habitent sur la face de la terre. De la même façon, quand nous entrons dans le royaume par la nouvelle naissance, alors, pour que cette naissance puisse continuer à se développer, pour que nous puissions nous épanouir, nous avons besoin de la parole ensemble avec l'action de l'Esprit de Dieu. Et c'est à ce niveau aussi que plusieurs tombent dans des travers du légalisme religieux. C'est-à-dire que à un moment donné, on a l'impression que nous méritons que Dieu fasse ceci ou cela pour nous. Non, notre mérite là, cela vient de Christ. C'est parce que Christ est allé à la croix qu'il a pris notre place. C'est sur cette base juridique devant Dieu que nous sommes acceptés. Et c'est sur la base de ce qu'il a fait que de bout en bout, du début de notre vie chrétienne jusqu'à la fin, nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Donc là, cette croissance maintenant dont je suis en train de parler va nécessiter la capitulation du récipiendaire que nous sommes. C'est-à-dire, nous avons reçu la parole, nous sommes nés de nouveau, la vie de Dieu se manifeste à nous. Maintenant, je soumets ma volonté à la volonté du Seigneur pour qu'il puisse reproduire en moi la vie de Christ. Et c'est ça le rôle du Saint-Esprit. D'accord? Il vient reproduire en nous la vie de Christ. Et notre vie maintenant, dès cet instant, doit être caractérisée par quoi? L'obéissance à la parole de Dieu, ça c'est un. Deux, la soumission à l'Esprit de Dieu. Si vous obéissez à la parole de Dieu et vous faites fi des injonctions du Saint-Esprit dans votre vie, vous allez remarquer que en un laps de temps, vous allez devenir religieux. C'est-à-dire que vous avez une connaissance mentale de la parole de Dieu, vous souscrivez à certains versets qui vous plaisent, parce que très souvent nous soulignons les promesses et jamais les commandements. Prenez la Bible des gens qui surlignent ça, vous allez remarquer ça. Donc là on va commencer par penser que c'est parce que je souligne des versets, c'est parce que je récite des versets que Dieu me bénit. Non, c'est une vie d'obéissance à la parole et à l'Esprit. Les deux vont de pair. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Dieu mettra toujours en relief ce qui manque à notre croissance, le manquement qu'il y a. Vous vous souvenez de l'histoire de Jacob, non? Il a menti à son père. Il a fait croire à son père qu'il était Ésaü. Le père est décédé avec cette idée-là. Mais maintenant, aussi longtemps qu'il est resté dans la posture de quelqu'un qui est mesquin, de rusé, et de qui cherche par tous les moyens à avoir gain de cause, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas lui conférer l'autorité de dire des choses pour que ça s'accomplisse. Lisez, étudiez sa vie, vous allez voir que c'est vers la fin de sa vie qu'il a pu prophétiser sur ses enfants. D'accord? Et pour cela, Dieu devait le rencontrer. Et quand il l'a rencontré, lui, il a posé une question. Comment t'appelles-tu? Dieu connaissait son nom, il savait qu'il s'appelait Jacob, mais il voulait apporter une correction, frères et sœurs. Aussi longtemps que le Saint-Esprit a mis le doigt sur un domaine de notre vie et que nous refusons de capituler, on peut faire 50 ans, il sera toujours là en mettant le doigt sur ça. Jusqu'à ce que peut-être quand nous résistons, nous aurons une conscience émoussée, il ne nous dira plus rien et il va nous laisser à un moment donné. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, il dit « Éphraïm s'est attaché aux idoles, laissez-le ». À un moment donné, Dieu sera obligé de laisser des gens qui ne veulent pas se soumettre aux injonctions de l'Esprit de Dieu. Donc là, quand il dit « je veux parler comme Christ », oui, mais maintenant c'est la question est « où se trouve Christ pour que tu parles comme lui ?» Il faut que Christ soit en nous, et qu'il vive sa vie au travers de nous. Nous avons la capacité de l'empêcher. D'accord? Lorsque nous refusons de nous soumettre à l'Esprit de Dieu, à la parole de Dieu, nous empêchons Christ de faire ce qu'il a toujours fait. Là, Paul, ancien pharisien, a dit dans Galates chapitre 2, verset 20, que beaucoup de gens connaissent et que les gens citent. Il y a même un cantique qui dérive de cette déclaration très profonde qu'il a faite. Ça là, la connaissance spirituelle est une connaissance révélée. C'est par révélation qu'il a su ça. Que le Christ, Jésus, là, comme nous l'appelons en français, Yeshua pour certains, que cet homme-là qui a été à la croix, qui est mort, ressuscité, qui est parti au ciel, mais il vient vivre en lui. C'est pas l'expérience. Et dans Galates, il va dire, lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère, de révéler en moi son fils Jésus. Nos problèmes, c'est quoi? C'est que nous ne sommes pas conscients de la présence du Seigneur en nous. C'est pourquoi nous vivons comme s'il est quelque part derrière les nuages et il faut s'adresser, il faut crier sur lui pour qu'il nous entende. La personne même est en nous par le Saint-Esprit. Et donc ici, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, prendre conscience de ça est fondamental. C'est pour cela qu'il a corrigé les Corinthiens en leur disant, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Tu vois, ce que Paul a fait comme expérience, c'est que c'est le partage de tous les enfants de Dieu. Corinthiens, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Et ça, cette réalisation-là, on ne peut accéder à des choses que le Seigneur a en réserve pour nous en tant qu'enfants de Dieu que si nous nous consacrons à lui, c'est-à-dire nous nous soumettons à lui. Et là, quand vous lisez Romains 12, 1 et 2, que beaucoup connaissent, vous allez comprendre que c'est quand nous nous consacrons que nous expérimentons ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Mais si nous refusons au Seigneur l'accès à notre personne, bon, on va juste être là comme ça et vivre à la périphérie de la grâce de Dieu et penser que on peut toujours se débrouiller par soi-même et de temps en temps, si on a besoin de lui, on lui fait appel pour un petit miracle par là, bon, un ajustement par ici, et une sorte de remise en perspective par là. Les premiers disciples n'ont jamais vécu de cette façon. Notre christianisme là, ce que nous pratiquons maintenant là, est en deçà de ce que le Nouveau Testament nous révèle. Donc, quand nous persistons dans la désobéissance, dans la rébellion, d'une manière ou d'une autre, cette vie que nous avons reçue va s'estomper. Et c'est ce qu'on appelle la rétrogradation. Et n'oubliez pas ceci, lorsque le Seigneur vient dans notre vie, ça semble être imperceptible. C'est-à-dire que vous avez cru à la parole de Dieu, vous avez confessé vos péchés, vous avez accepté, bon, Jésus à partir de maintenant vient dans ma vie, mais vous n'avez rien ressenti. N'est-ce pas? Hein? Et le jour où il va partir, comment vous savez qu'il est parti? Vous savez pas. Au contraire, le diable, quand lui vient, quand le juif va partir là, quand on commence pas à chasser les démons, c'est là où vous voyez que la personne que vous avez rencontrée tout à l'heure, bien habillée, ceci là, une autre personne commence pas à se manifester dans la personne. Donc vous voyez un peu, donc il faut faire extrêmement attention en tant qu'enfant de Dieu à marcher dans la droite ligne de la parole de Dieu. Vous savez, lorsque un chrétien fait preuve de cynisme, il prend plaisir à faire du mal à d'autres chrétiens, il fait preuve de... Il y a plein de gens qui sont hypocrites aujourd'hui, qui font semblant d'être ceux qui ne sont pas, ou bien ils sont rusés. Pour eux, la ruse est synonyme de la sagesse de Dieu. C'est pas vrai. Lisez l'épître de Jacques, vous allez voir que la sagesse qui vient du ciel est pure. Cette sagesse-là, elle est pure, elle est dénuée de tout ce qui est ténébreux. Si vous manifestez un type de sagesse qui s'apparente à la ruse, ce n'est pas la sagesse, ce n'est pas Christ en ce moment qui agit en vous. Parce que notre vie est caractérisée par quoi? L'obéissance à la parole de Dieu et la soumission aux injonctions du Saint-Esprit. Et lorsque nous faisons ça, nous sommes en train d'apprendre à être comme Jésus a été. Lui, il a vécu dans l'obéissance au travers des choses qu'il a souffertes. Et malgré les souffrances, il est resté obéissant au Père jusqu'à la fin. Et donc, quand l'auteur dit, je vais parler comme Jésus parle, avant que je ne puisse parler comme Jésus parle, il faut que Jésus ait le contrôle parfait de mon cœur. Il faut que le cœur soit circoncis. Parce que quand le cœur est circoncis, quand le cœur est purifié, l'amour que j'ai pour Dieu n'est pas un amour sensuel. Ce n'est pas type d'amour de j'aime Dieu parce que non. Mais c'est un désir qui brûle en moi à tout moment de vouloir lui être agréable. Et en même temps, vis-à-vis de ceux qui sont créés à l'image de Dieu, j'aime les gens pas parce que ils sont de mon ethnie, ou bien ils sont de ma classe sociale, ou bien on est dans une confrérie donnée. Non, parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Je prends plaisir à les accepter tels qu'ils sont. Et c'est ce faisant que je leur prêche la bonne nouvelle. Mais quand on n'aime pas les gens et qu'on prêche, ce n'est plus la bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce que ça émane d'un cœur qui est charnel, d'un cœur qui n'a pas été circoncis. Et c'est pas méchanceté qu'on veut. Vous voyez, quand quelqu'un vit dans le péché, qu'on veut lui prêcher l'évangile, on fait quoi? Quand on n'est pas mu par l'amour de Dieu, on fait quoi? On condamne. Le message de l'évangile ne s'arrête pas à la condamnation. Le message présente la loi et le pécheur se rend compte que là, si telle est la justice de Dieu, moi-même là, je ne suis pas à la hauteur. Et maintenant, en même temps, présente la grâce pour dire, cette incapacité-là, Christ l'a réalisée. Et prends ton incapacité, te donne la capacité qui vient de Dieu. Et là, quand cette vie nouvelle prend place en toi, ce dont tu étais incapable auparavant, tu deviens alors capable. Alors, vous voyez un peu, c'est comme ça qu'on présente l'évangile. La loi a été donné par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est comme ça. Il faut pas venir mentir aux gens et leur donner des illusions et vivre dans l'illusion pensant qu'ils sont convertis alors qu'ils ne le sont pas. Et ils s'étonnent quand chaque fois on dit, quand Jésus vient dans une vie, il met fin à la puissance du péché. Les gens s'étonnent et disent, mais comment vous dites ça? Parce que d'ici le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Demandez-vous quel message on vous a prêché. De quel Jésus on vous a parlé? Un Jésus tout gentil là, qui peut même vous faire des pédicures et des manicures, c'est de ce Jésus-là qui est à vos services pour répondre à vos moindres désidérata. C'est ce Jésus-là, le Jésus qui ne parle pas de vos responsabilités en tant que chrétien, mais qui dit, oh, que mon fils, je sais que tu es faible, ma fille, tu es faible, tu peux nager dans le péché, et quand tu vas revenir à la surface, alors on va continuer, je suis amour, je suis grâce. Non! Vous lisez le Nouveau Testament, vous allez comprendre que tous ceux qui ont rencontré Christ l'ont rencontré comme quelqu'un qui exige l'obéissance à sa parole, la soumission à son esprit.
Très bien. Parler comme toi, c'est juste cet aspect de la chanson qu'on vient de développer. Il y a un autre aspect, je crois que tu as commencé par l'aborder un peu. Hein. Aimer comme toi, en amour, aimer comme toi, est-ce possible qu'on puisse aimer comme lui?
Est-ce naturellement, possible? Ce n'est pas possible.
Alors, comment spirituellement, c'est possible?
Oui, bien sûr.
Ok, on va y aller.
Quand on se soumet à l'œuvre de l'Esprit, tu vois, chaque fois, quand vous lisez dans l'Ancien Testament, il y a des textes, des phrases qui sont dans l'Ancien Testament. Quand on les lit, le premier, comment est-ce possible? Il est toujours question de l'action de Dieu dans le cœur de l'homme avant que l'homme ne puisse faire ce que Dieu lui demande. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. Et là, quand Moïse disait ça aux enfants d'Israël, les hommes parmi le peuple pouvaient se dire, mais c'est quoi ça? Nous savons que par ce que Dieu a dit à notre ancêtre, Abraham, nous sommes circoncis le huitième jour, n'est-ce pas?
Oui,
on a été circoncis. De quelle autre circoncision tu parles?
Ouais.
Vous voyez maintenant que ce test fait référence à quelque chose de spirituel, parce que l'homme n'est pas que corps. La circoncision dans la chair, le prépuce qu'on enlève et tout ça, c'est physique. C'est une marque de l'alliance qui unissait l'Éternel à son peuple.
Et la circoncision, là, concerne que les hommes, hein, pas les femmes.
Ah oui, bien sûr. Ça, c'est la circoncision dans la chair, ça.
Dans la chair.
Maintenant, quand il parle il est en train de faire une projection qui est en lien avec l'arrivée du Messie. Quand le Messie va venir, il va faire une œuvre que même les prophètes d'antan, ils ont juste une idée de ce que c'est, mais il n'arrive pas à cerner. Donc, ce sera maintenant la circoncision du cœur. Et le texte dit, dès que le cœur est circoncis, tu aimeras l'Éternel ton Dieu.
Oui.
Tu vois?
Oui.
Avant ça, tu ne peux pas l'aimer.
Oui.
De tout ton cœur.
Oui.
De toute ta force. De toute ton âme. De tout ton esprit. Impossible. Maintenant, quand ce cœur maintenant est transformé, l'amour qui jaillit de ce cœur maintenant se manifeste vis-à-vis de ceux qui sont à l'image de Dieu, des créatures de Dieu. Tu vois un peu? Tu ne peux pas être rempli de l'amour de Dieu et avoir de la haine contre des gens qui sont créés à l'image de Dieu, même si c'est le pire des pécheurs.
Alors,
pourquoi?
Oui.
Tu as de l'aversion, tu as en horreur le mal qu'ils font, mais tu ne peux pas t'empêcher de les aimer. Et c'est exactement comme cela que Dieu nous voit, comme ça il nous l'a vu avant notre conversion pour ceux d'entre nous qui sommes convertis. C'est-à-dire que quand il nous voit, il sait que si sa justice devait intervenir, personne ne tiendra devant lui. Mais la miséricorde est devant sa face. Et c'est pour cela que Christ est venu. Et donc, quand il nous voit, pas par amour, pas par compassion, il se dit, s'ils peuvent seulement accepter ce que j'ai fait pour eux au travers de mon fils à la croix, je vais transformer leur vie. Quand on est malheureux, Dieu ne prend pas plaisir à nous voir malheureux. Mais lorsque nous venons à lui, alors il prend sur lui, c'est son honneur qui est engagé en ce moment, il prend sur lui de relever les défis de notre vie au travers de l'œuvre que son fils a accomplie à la croix. Donc, l'Esprit de Dieu a pour objectif fondamental de venir manifester la nature de Christ en nous. Et entre autres choses, de cette nature-là se manifeste pas là, l'amour. D'accord? La sainteté. L'amour, on ne peut pas parler d'amour quand il n'y a pas un objet sur lequel cet amour-là doit être déversé. Un objet ou une chose qui doit faire l'objet de cet amour-là. Vous comprenez quand on dit Dieu est amour? Il ne peut pas être seul et être amour. Il doit aimer quelqu'un, il doit aimer quelque chose. Donc, de cette même manière, quand on devient enfant de Dieu, l'amour de Dieu nous met en action. Ce que nous faisons, c'est par amour pour le Seigneur et pour ceux qu'il a créés à son image. Donc, là, pour que cela puisse devenir notre réalité quotidienne, nous devons collaborer avec le Saint-Esprit. Frères, sœurs, examinez, vous allez voir. Si vous refusez au Saint-Esprit l'autorité qu'il a sur votre vie, et que vous vous cantonnez seulement à la parole de Dieu, vous allez remarquer qu'autour de vous, vous n'êtes pas seul. Parce qu'au travers le monde, il y a plein de regroupements religieux chrétiens où les gens ont une connaissance des Écritures. Mais c'est au sein de ces regroupements-là qu'il y a des scandales les plus criards. Ou même la finesse dans la méchanceté. Tu vois, chaque fois qu'on dit quelqu'un, dit qu'il est chrétien et il est méchant, moi mon premier réflexe, c'est Jésus ne fait pas ça. Jésus là, il n'est pas méchant. Il a en horreur l'injustice, l'iniquité, mais il n'est pas méchant. Donc si je dis je suis chrétien et je suis méchant, et je prends plaisir à faire du mal aux gens, parfois même aux enfants de Dieu, et je suis parvenu au point où ça ne me fait plus rien. C'est-à-dire que tu développes un cynisme de haut niveau où tu fais du mal à un enfant de Dieu et tu es calme, tu es tranquille. Alors que Jésus a dit, si vous scandalisez un de ses plus petits, vous aurez affaire à moi. Il y a ces versets-là sont dans la Bible, on ne les lise pas. Et aujourd'hui, mais on dit, on est allé jusqu'à dire, oui, quand quelqu'un accède à l'autorité, oui, c'est comme si Dieu lui donne un sauf-conduit, Dieu lui donne l'autorité de pouvoir même écraser à gauche et à droite les enfants de Dieu, oui, parce qu'il est un leader. C'est pas vrai, c'est pas dans la Bible, c'est pas dans le Nouveau Testament, et ce n'est pas l'Esprit de Christ. C'est dans le monde qu'on écrase les autres. En Christ, là, on sert les autres. C'est un privilège de savoir que X est enfant de Dieu, Y est enfant de Dieu, et Dieu m'accorde la grâce de les servir. C'est ça le leadership chrétien, le leadership serviteur. Maintenant, si on calque le leadership chrétien sur le leadership du monde, ça c'est l'esprit de Babylone. L'esprit de Babylone s'impose à tout, quitte même à verser le sang humain. Alors maintenant, donc si nous, on ne verse pas le sang humain, mais on triture les gens, et on laisse derrière nous des décombres de vies humaines au nom du leadership, là on a failli parce que c'est pas Jésus ça. Jésus là, il fait pas ça. Donc, dans 2 Pierre chapitre 1, et ce verset-là, quand Élie premier, on se dit, mais Pierre veut dire quoi? N'oubliez pas Pierre, hein, ancien pêcheur. Un monsieur assez bouillant. Hein? Mais quand l'Esprit est venu faire son œuvre, écoutez ce que Pierre est en train de dire. 2 Pierre chapitre 1 verset 8. Car si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Et il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne bronzerez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée du royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ vous sera accordée. Maintenant, la question qu'on pose naturellement, c'est quoi ces choses-là dont l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre est en train de parler, n'est-ce pas? Parce que pour certains, ils pensent que oui, quand on devient chrétien, c'est comme vous êtes assis sur un truc là, on vous pousse seulement. Restez tranquille, on vous pousse seulement. Non, il y a des efforts que nous devons faire. 2 Pierre chapitre 1, là. Dans la première partie du verset 3, dans le verset 3, il nous dit, Dieu a mis à disposition tout ce qu'il faut pour que nous soyons saints. C'est pour cela qu'il dit, il nous a appelés à participer à sa nature divine. La nature divine, là, c'est la nature de sainteté qui se manifeste par l'amour que nous avons, non seulement pour Dieu, mais vis-à-vis des autres. Maintenant, il dit, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela même, qu'est-ce qu'il faut faire ? Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Frère, tu as la foi, c'est bon, mais il faut joindre maintenant à la foi la vertu. Tu veux un peu? Hein? La vertu, c'est le contraire du vice. Donc si tu es chrétien vicieux, tu n'es pas chrétien. Tu veux un peu? Donc, joindre à la foi la vertu, à la vertu, la science. Un chrétien n'est pas toqué, non. Un chrétien, là, il a un niveau de il a une capacité qui sort du commun. Et beaucoup de gens pensent que le chrétien, c'est quelqu'un qui doit raser le mur. Non. Donc, et là, à la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété, la pureté. À la piété, l'amour fraternel. Tu vois, l'amour est maintenant le summum. L'amour fraternel est à l'amour fraternel, la charité. C'est ça, cette vie-là. Ouais, maintenant, il y a conscience en disant, il faut faire des efforts. Frères et sœurs, la vie chrétienne, là. Ah, après la conversion, vous aurez besoin de faire des efforts pour pouvoir avancer avec Christ. L'Esprit est là pour nous aider. Nous aurons besoin de nous soumettre. Chaque fois que l'Esprit met le doigt sur quelque chose qui n'honore pas Dieu, qui n'est pas de la nature de Christ, nous avons la responsabilité de nous en repentir de l'abandonner pour pouvoir évoluer. Il ne sert à rien de devenir des Abraham dans la maison de Dieu, alors que spirituellement, on n'est même pas encore sorti du berceau. Vous voyez un peu, c'est grave. C'est pour cela que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a dit, vous qui normalement devez devenir des enseignants, vous êtes encore à la maternelle. On doit encore vous parler des rudiments de la foi et autres. Frère, il est temps qu'on se réveille et qu'on permette à l'Esprit d'utiliser la parole pour accomplir l'œuvre de la transformation qu'il a commencée dès l'instant où nous sommes devenus enfants de Dieu.
Avant de passer à l'étape suivante dans cette émission, je voudrais poser une question à l'autre Laurent par rapport à aimer comme toi, aimer comme Jésus. Mm-hmm. Alors l'autre Laurent, est-ce possible qu'un chrétien dise que la tête de ce frère ou de cette personne-là ne me plaît pas? Parce que souvent on entend dire ça. Hein, que ta tête ne me plaît
la
pas.
La tête de ce frère, de cette sœur.
Bon, d'une manière générale, hein, pas de un frère. La tête d'abord, de ce monsieur, de cette dame, de tel ne me plaît pas. On entend dire ça.
Bien, là, je vais dire ceci.
Ce langage-là est normal.
Je vais essayer de traduire un peu ce que la personne. Bon, d'un côté, ce qui se passe réellement, et de l'autre, ce que les gens nous font croire. D'accord. C'est-à-dire, quand on est converti.
Oui.
Quand la nouvelle vie commence à se manifester en nous,
ouais.
Dans notre esprit humain, il y a l'aspect de la l'intuition et de la conscience. La conscience et l'intuition font partie des composantes de l'esprit humain. Ouais. Alors que la volonté, les émotions, la pensée et les sentiments et autres là sont logés au niveau de l'âme. D'accord? Donc, au niveau de l'esprit humain, quand le Saint-Esprit vient maintenant, il redonne vie à notre esprit qui était mort spirituellement. Mmh. Et ces facultés commencent maintenant, sont activées et commencent par agir. Ce qui fait que le mal qu'on faisait avant sans ressentir quelconque besoin de nous excuser, quand tu poses cet acte-là, là tu seras mal à l'aise parce que l'esprit va agir sur ta conscience pour te dire, ça là, c'est pas correct. Mmh. D'accord? Mmh. Et au fur et à mesure que, à chaque fois que l'esprit met, vous n'allez pas, la plupart du temps, entendre l'esprit parler. Mais je sais pas comment expliquer, mais vous saurez quand c'est lui. D'accord? Il parle, mais il a sa manière aussi de dire les choses. Mmh. Et parfois, c'est des impressions aussi fortes. Alors, à chaque fois que vous soumettez à ça, vous allez voir que vous devenez très sensible. Mmh. Très sensible. Alors, maintenant, dans ce développement-là, il y a aussi l'aspect du discernement qui est accordé. D'accord? Le discernement, ce n'est pas le fait de soupçonner les gens. Le discernement, seulement, ce n'est pas de la psychologie. Mm-mm. Le discernement relève d'une action du Saint-Esprit qui vous permet de savoir quel esprit est à l'œuvre. C'est pas vous qui imaginez des choses sur la personne. Il y a des gens qui sont très susceptibles, d'accord?
Oui.
Lorsque quelque chose dérange leur personne, ils pensent que c'est le Saint-Esprit. Non. Le discernement, vous n'imaginez pas quoi que ce soit sur la personne, mais dès que vous savez, sans l'ombre d'un doute, qu'il y a un point d'interrogation. Et très souvent, quand les faux prophètes font ils rendent ministère, comment saurez-vous que c'est un faux? Ce n'est pas que vous êtes en train de soupçonner la personne, mais si vous avez ce contact-là, vous savez que ce monsieur-là, il est faux. Malgré la nature du message qu'il donne là, il est faux. Et il y aura quelque chose de pas très clair à propos de lui ou d'elle. Vous êtes, je n'arrive pas à cerner la personne. Il doit y avoir quelque chose. Jusqu'au jour où, bam, ça vient comme ça. Ah ah! Ça, c'est autre chose. Que plutôt que selon l'éducation chrétienne que vous avez reçue, de la domination où vous avez évolué, lorsque quelqu'un ne fonctionne pas selon ces critères humains-là, vous commencez à dire, ah non, cette personne là, non, c'est pas de cela qu'il est question. Donc, la vie, que la tête de quelqu'un ne me plaise pas, on peut aussi naturellement parler d'intuition, il y a un point d'interrogation sur la personne. Ça, c'est autre chose. Le discernement aussi, c'est autre chose. Oui. Mais pour ce qui est du discernement, c'est le Saint-Esprit qui nous donne de discerner. Et quand il le fait, nous savons. Parce que Dieu met toujours un sceau à ses instructions. D'accord. Pour que nous sachions la source. Donc, et là, il est important que nous puissions prendre conscience de ce qui nous motive lorsque nous disons ce que nous disons.
D'accord. Okay. Mm-hmm. On va rapidement évoluer. Il y a un autre aspect de cette chanson. Il est dit « Prendre ma croix et m'humilier ». Ça, j'ai pensé à la souffrance. Et aujourd'hui, on dira « être résilient ». Hein, ce terme-là qui revient souvent, la résilience.
Oui, alors, la résilience, je crois que c'est un concept qui est assez promu aujourd'hui dans les milieux politiques un peu partout dans le monde. Oui, on parle de temps à autre, que ce soit à partir des Nations Unies, d'autres instances internationales, il y a des concepts qui sont proposés et qui font l'objet de débats et à partir desquels il faut maintenant orienter la politique du monde. Donc aujourd'hui on parle plus de résilience. Une personne résiliente, c'est une personne qui est capable d'accepter les circonstances difficiles ainsi que les émotions que ces circonstances provoquent. Donc la personne dispose d'une stratégie qui lui permet de guérir de stress et d'essayer de faire avec. D'accord? Et là, avant que ce terme ne vienne, ne soit servi en Afrique, il faut dire que l'Africain est par nature un être résilient. Il y a des choses qui arrivent à l'Africain, il me dit oui, ma situation est telle, mais je ne vais pas me tuer. Alors qu'ailleurs, en Europe, en Occident et autres, là, bon, les gens n'ont pas appris à faire face à certaines réalités, ils se suicident. C'est ces derniers temps qu'on entend un peu parler de suicide sur le continent et autres. Sinon, l'Africain, même de par sa nature, est un être résilient. Alors, maintenant, ce dont nous sommes en train de parler, en ce qui concerne le chrétien, prendre sa croix et s'humilier devant Dieu, devant les hommes, est un choix personnel et individuel que chaque disciple est appelé à faire. C'est ça la vie de renoncement à soi, qui n'est pas aisé, cette vie-là. Ce choix n'est pas aisé parce qu'il y a des moments où la chair ne voudra pas. Et là, cela a du prix devant Dieu. Dans Luc chapitre 9, verset 23, il est dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix et qui me suive. » Qui me suit pour aller où? C'est la question qu'il faut se poser. Qui me suit pour aller où? C'est vrai que l'aboutissement de nos vies chrétiennes, c'est auprès du Père. Hein, sur le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. C'est ça l'aboutissement. Mais le cheminement pour parvenir à ce point-là, elle sera personnalisé, si vous permettez l'expression. C'est-à-dire pour chaque disciple, le cheminement sera tout autre. Dépendamment de l'appel de Dieu dans notre vie, de notre passé avant la conversion et des choix que nous faisons parfois sans consulter Dieu. C'est-à-dire que parfois nous faisons des choix et nous attirons dans notre vie des déconvenus que Dieu n'avait pas au programme pour nous. Et donc on va assumer les responsabilités de notre turpitude. Donc c'est important de comprendre cela. Maintenant, dans le libellé de la chanson, il est fait question d'humilité, n'est-ce pas? Et l'humilité est vis-à-vis de Dieu, d'une part, et puis vis-à-vis des hommes. Là, quand vous lisez Jacques, vous allez comprendre quand il dit Jacques chapitre 4, verset 5, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. L'Esprit de Dieu qui est en nous, là. Dieu ne l'a pas donné pour de l'amusement. C'est quelque chose de vraiment sérieux. Alors, si vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez ce dont l'Esprit de Dieu est capable. Vous allez marcher sur la pointe des pieds parce que si un certain Ouza a voulu aider Dieu, et Dieu l'a frappé parce qu'il avait donné des instructions pour qu'on ne touche pas. On ne touche pas à l'arche de l'Alliance. C'est pour cela qu'il y avait des barres pour pouvoir porter. Vous voyez un peu donc. Maintenant, si l'Esprit de Dieu vient résider en nous et que l'apôtre Paul nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, frère, sœur, vous voyez juste, c'est vraiment... Ça fait peur que Dieu réside en un être humain.
Et que partout où tu vas là, oui, tu es en train de mouvoir avec Dieu. Ce que tu vois, il voit. Ce que tu entends, il entend. Alors, si on prend conscience de ça, ça va. On n'aura pas besoin d'un maître pour nous enseigner comment vivre dans la sanctification. Et donc là, il dit maintenant, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Il fera l'un de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Ça dit quoi? Après des années, si jusque-là, tu n'as fait aucun progrès, tu dois sentir ta misère. La réalité de Christ en toi. Il est en toi, mais tu ne sais même pas qu'il est en toi. Tu dois sentir cette misère et dire, ah Dieu, aide-moi. Alors, donc, il dit, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil, que votre joie se change en tristesse. Humiliez-vous devant Dieu et il vous élèvera. Ça, c'est le principe de Dieu, ça. Vous vous humiliez, il vous élève. Il n'y a pas un autre chemin. Vous vous élevez, alors le bois vous serez abaissé. Et là, maintenant, dans Philippiens chapitre 2, il a dit, ne faites rien par esprit de parti pris ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais moi, quand je rencontre un enfant de Dieu, en moi, je me dis, la grâce de Dieu a accompli quelque chose en lui, qui n'a pas encore été accompli en moi. Et je suis sensible à ce moment qu'on a en partage, juste à peut-être qu'on se sépare. C'est comme cela que ça va vous mettre à l'abri. Et n'oubliez pas, hein, l'humilité est différente du tempérament. D'accord? Ce n'est pas parce que Pierre est bouillant, après l'œuvre de l'esprit, qu'il n'est pas humble. Ce n'est pas parce que Jean est du genre calme, ou il parle lentement, qu'il est plus humble que... Non. C'est le tempérament, c'est tout autre. Mais l'humilité, c'est un acte. C'est nous qui décidons. C'est nous qui choisissons de nous humilier, de ne pas faire prévaloir nos droits. Mais devant le mal, l'humilité ne signifie pas que devant le mal, on dit, ok, comme je suis humble là, ok, allez-y, on va venir. Non.
On ne compromet pas.
Non. D'accord. Jésus est le plus humble de tous, mais il n'a pas fait de cadeau aux pharisiens, parce qu'il a vu en eux des dangers pour le peuple d'Israël. C'était des religieux, mais c'était des hypocrites. Et Jésus a dû mettre en relief ce qu'ils étaient en réalité, parce qu'ils étaient en train de donner une fausse image de Dieu, au peuple de Dieu à cette époque-là. Donc, c'est important de comprendre ces choses.
D'accord. Il y a aussi pardonner comme tu l'as fait. Pardon. Le pardon est là. Il faut limiter aussi en pardon, dans la manière de pardonner.
Mm-hmm. Oui, mais l'homme naturel est enclin à la vengeance. Hein. Quand il est mu par la colère, il est amer. Et cette amertume se change en rancune, et plus tard ça devient de la haine, et il cherche de la compagnie. C'est pourquoi souvent quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous allez chercher quelqu'un d'autre pour lui en parler. C'est-à-dire que vous voulez qu'il soit de votre club de gens qui n'aiment pas X. Et quelqu'un dit en anglais, you will never hate alone. Tu ne seras pas seul quand tu veux haïr quelqu'un. Tu vas toujours trouver de la compagnie. Et le désir de se venger est toujours là. Dans Hébreux chapitre 12, nous lisons au verset 14, il dit, recherchez la paix avec tous. Rechercher veut dire quoi? Rechercher la paix veut dire quoi? Chercher la réconciliation. N'est-ce pas? Mais quand on n'est pas prêt à pardonner, on ne cherche pas la réconciliation. Et vous allez voir le lien qu'il y a entre la paix et la sanctification. Rechercher la paix avec tout ça, avec les hommes maintenant. La sanctification, la vie intérieure, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce qu'aucun nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc vous voyez, vous n'allez pas haïr quelqu'un seul, vous allez chercher de la compagnie. Pardonner est un choix que nous faisons par la grâce de Dieu. D'accord? Quand on fait ce choix, on demande à Dieu. Quand nous l'obtenons, le non-pardon s'en va. Et c'est la preuve que le cœur a été sanctifié. Jésus n'a pas de haine en lui contre une quelconque personne. Et il ne nous a pas chargé de haïr les gens en son nom. Non, parce qu'il a dit, l'heure viendra où quelqu'un, en vous faisant mourir, croira rendre un culte à Dieu. Il vit dans l'illusion qu'il rend un culte à Dieu quand il fait mourir un disciple. Il détruit sa réputation, il ruine sa vie, il croit rendre un culte à Dieu au nom d'un supposé niveau de sainteté. Non, c'est pas dans la Bible. Pardonnez comme tu l'as fait. Je veux Jésus te ressembler.
Oui, bien aimé, vous suivez bien l'émission Étude Cantique et nous allons entamer dès à présent la deuxième partie de cette chanson, l'autre Laurent. Et là, il est dit, chantons ensemble, alléluia, célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Alors, j'ai une question, deux questions à poser en même temps, localement. Okay. La première question, c'est une invite à célébrer le Seigneur. Mm-hmm. Oui, la deuxième question, oui. Et fait mention de la résurrection de Jésus-Christ.
Oui.
Alors, que faut-il comprendre par
ces
deux questions?
Oui, la première, c'est que en l'absence de l'amertume et du non-pardon dont j'ai parlé tout à l'heure, l'adoration devient vraie. D'accord? Quand ensemble, parce que là, ils ont dit « chantons ensemble ». Alors, nous ne pouvons pas chanter ensemble si dans le cœur de X, il y a encore des traces d'amertume et autres. Mais lorsque le pardon est réciproque et que nous n'avons rien les uns contre les autres et que nous vivons en paix, l'adoration, la louange deviennent vraies. D'accord? Et là, quand vous lisez 1 Timothée chapitre 2, vous allez voir quand, dans le décliné de ce verset jusqu'au verset 8, là, vous allez voir que il est question de Christ qui est le médiateur, mais en même temps de prier pour ceux qui sont élevés en dignité dans la société. Vous savez que très souvent, les gens n'aiment pas prier pour les autorités parce que pour eux, les autorités, par leurs décisions, les enquiquinent. D'accord? Ils sont pas d'accord. Alors que si on les mettait à la place de ces autorités, ils feraient pas mieux eux aussi. Mais d'une manière ou d'une autre, Paul dit que nous devons prier pour les autorités. Ça, c'est un. Deux. Là, dans le verset 8, il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains pures, sans colère. Tu vois? Sans colère, ni mauvaise pensée. Mmh. Alors, si nous devons chanter ensemble et célébrer le Seigneur, là, avec les mains pures, bien entendu, sans colère. Il faut pas qu'il y ait de la colère dans quelqu'un contre X, contre Y, et qu'il y ait de mauvaises pensées. Cette prière est annulée si c'est une prière collective, lorsque dans 3 ou 4 sont ensemble pour prier, et que parmi les 4 là, il y a un qui a raison ou tort de susurrer le mal en lui, la prière là est annulée, parce que c'est le principe là qui a été appliqué quand Acan a pris les choses dévouées, pas interdites. Mmh. Il est le seul à prendre ces choses, mais ça a affecté tout le peuple d'Israël. C'est la même chose, quand c'est une prière collective, avant de se lancer, il a commencé par crier doucement, doucement. Il faut prendre un temps et laisser à Dieu le soin de nous sonder d'abord. Lorsque nos cœurs sont purs devant Dieu, nos cœurs sont sincères les uns envers les autres, Jésus dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Dans la deuxième partie de la question que tu as posée, où il a parlé de la résurrection et du retour prochain du Seigneur, n'est-ce pas?
Oui.
Mais au premier siècle, les saints prêchaient l'évangile de la croix, vivaient et œuvraient dans l'attente du retour du Seigneur. C'était le schéma, ça. Oui. Ils prêchaient l'évangile de la croix, contrairement à ce qu'on nous prêche aujourd'hui. D'accord? Qu'est-ce que Christ est venu faire? Il faut dire aux gens. Et c'est souvent que l'Esprit va se saisir du message pour opérer le miracle dans le cœur de ceux qui l'écoutent. Il prêchait l'évangile de la croix et il vivait dans la sainteté, œuvrait dans le ministère, dans l'attente. Ils étaient dans l'attente. Mmh. Mais aujourd'hui, là, est-ce qu'on est dans l'attente? Quand on prend la majorité des chrétiens, est-ce que nous vivons au jour le jour en nous disant, il peut revenir aujourd'hui, et si le soir vient, il n'est pas revenu, Dieu merci, est-ce qu'on vit de cette façon-là? Quand je prends juste 3 témoins, je vais prendre juste comme cela. 1 Corinthiens 1 verset 7, il dit, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente que vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est aux Corinthiens, aux Thessaloniciens. Quand on raconte, 1 Thessaloniciens 1 verset 9, on raconte à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous, comment vous vous êtes convertis à Dieu, ça c'est un, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son fils. Tu vois, ces gens vivaient dans l'attente du retour du Seigneur. Et Tite maintenant, que beaucoup connaissent, Tite chapitre 2 verset 11, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Cette grâce fait quoi? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. L'impiété est le contraire de la piété, aux convoitises mondaines. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant
la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Ces trois passages-là nous montrent clairement qu'au premier siècle, les saints vivaient dans la sainteté, œuvraient dans le ministère, dans l'attente du retour du Seigneur. Et ils prêchaient l'évangile du royaume. Donc c'est la question que je peux offrir aux deux questions combinées que tu as posées.
Merci l'autre Laurent, merci également à vous bien-aimés de nous avoir suivis dans cette émission. Bien-aimés, après ces commentaires, nous comprenons notre responsabilité en tant qu'enfants de Dieu. Cherchons alors à ressembler à Jésus en parole, en amour, en pardon, en résilience, car notre Seigneur est vivant. Bien plus, il est ressuscité. Persévérons dans cette voie et ne nous relâchons pas, car le Seigneur revient bientôt nous chercher. Au revoir et à dimanche prochain. On vous quitte avec la chanson du jour.
Je veux, Jésus, te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Je veux, Jésus, te ressembler.